France Culture, il est 12h30. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Près d'un cheminot sur deux est en grève aujourd'hui. Très forte perturbation du trafic. Le secrétaire général de la CGT appelle le gouvernement à repartir d'une feuille blanche sur sa réforme. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, assure que le gouvernement va tenir bon. Précision d'Hakim Kasmi, analyse politique de Stéphane Robert. Air France prévoit d'assurer aujourd'hui 75% de son programme de vol. C'est une nouvelle journée de grève à l'appel de l'intersyndicale de la compagnie. Autre secteur en grève, celui de l'énergie, la CGT, qui appelle à 3 mois d'action pour défendre le secteur électrique et gazier. Vers une extradition vers l'Espagne de Carles Puigdemont, le parquet allemand prend ce matin des réquisitions en faveur d'une remise à l'Espagne de l'ancien président catalan, correspondance à Berlin de Nathalie Bercieux. Et puis cette interview du prince héritier saoudien à la revue américaine The Atlantic, Mohamed Ben Salman, qui assure n'avoir aucune objection religieuse quant à l'existence de l'État d'Israël. Commentaire d'Éric Biegala, l'invité de la séquence interview. Roger Dillenseger, qui est secrétaire général de l'UNSA, cheminot dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Comment faire apparaître ce qui n'est plus ? Un cinéaste, Nicolas Klotz, et un anthropologue, Michel Agier, viennent nous parler de leur jungle de Calais, celle qu'ils ont vue et qu'ils veulent aujourd'hui rendre visible, aujourd'hui démanteler la jungle de Calais, un lieu habité avant donc d'être rasé. Un laboratoire aussi du monde tel qu'il va aujourd'hui. On a commencé à parler de la question des migrants avec le romancier Philippe Claudel. On poursuit donc dans la deuxième partie de la grande table.
Premier jour donc de cette grève au long cours à la SNCF. Comme prévu, trafic très perturbé. La direction recense près d'un cheminot gréviste sur deux jusqu'à plus de 3 sur 4 chez les conducteurs. Le secrétaire général de la CGT parle de grève très massive. Il appelle le gouvernement donc à repartir de zéro, en fait d'une feuille blanche sur cette réforme. Mais la ministre des Transports, Elisabeth Borne, affirme que le gouvernement tiendra bon et dénonce aussi une politisation des débats. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Mercier.
On fait un petit point évidemment d'abord sur ce mouvement qui est bien suivi conformément à ce qui a été annoncé hier.
Oui, comme prévu, la grève est très suivie. Seul un TGV sur 8 roule sur le réseau Intercité, les corails. Il faut compter un train sur 10 sur Paris-Toulouse, 1 sur 4 sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg. Pour les TER et les franciliens, là aussi c'est guère mieux, 1 train sur 5. Au-delà des perturbations, il faut préciser que plusieurs lignes sont carrément fermées et non desservies. Ces chiffres montrent bien en tout cas la forte mobilisation des cheminots, et ce, quelle que soit leur branche. Car il faut préciser que cette fois, les cadres sont aussi très mobilisés, ce, malgré la prime de 150 euros de la direction pour remplacer les conducteurs grévistes. Fort de cette mobilisation, les syndicats entendent bien faire pression sur le gouvernement. Ils savent que le temps peut jouer contre eux, car en faisant grève pendant 3 mois, ils vont certes limiter la casse sur la fiche de paye à la fin du mois, mais pas sûr que l'opinion publique les suive jusqu'au bout, notamment pour les employés et les ouvriers du secteur privé qui se retrouvent bloqués sans pouvoir partir au travail et qui se disent aussi au fond d'eux que n'ont pas la garantie de l'emploi, contrairement aux cheminots. De son côté, le gouvernement n'entend pas céder. Elisabeth Borne l'a redit ce matin, la réforme sera menée jusqu'au bout. La ministre des Transports qui dénonce également une politisation du mouvement et de la désinformation, des déclarations qui ne devraient pas faciliter le dialogue social qui pour l'instant est interrompu.
Voilà, on va entendre Elisabeth Borne dans un petit instant, mais d'abord Philippe Martinez, invité ce matin de France Inter, parle de grève très massive donc pour la CGT et il demande que le gouvernement entende les grévistes.
Quand on a un taux de grévistes aussi fort, toute catégorie sociale confondue, parce que l'opération débauchage des cadres pour remplacer les grévistes est un échec cuisant. Donc c'est bien toutes les catégories de salariés qui sont concernées. Eh bien, on écoute. On ne dit pas, on continue pas à dire vous êtes des privilégiés, pensez à ces pauvres usagers, etc.
Aucun des cadres n'a voulu remplacer les cheminots grévistes.
C'est marginal. Je crois que c'est 125.
Voilà, secrétaire général de la CGT avec Nicolas Demorand. On salue notre invité, Roger Dillenseger. Bonjour.
Bonjour.
Secrétaire général de l'UNSA cheminot. Bon, quel écho avez-vous de votre côté de cette mobilisation ce matin ?
Alors, il me semble important de préciser que je suis secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, et pas seulement de l'UNSA cheminot, parce qu'effectivement, c'est une dimension que l'UNSA ferroviaire a pris. En l'occurrence, on est donc, je suis secrétaire général d'une organisation syndicale, autant des cheminots de la SNCF que des cheminots d'Eurostar, d'Eurocargo Rail, de Tello, donc du secteur de la branche.
Du secteur ferroviaire.
Donc voilà,
d'accord.
Donc, pardonnez-moi. On défend tout à fait les cheminots de la SNCF, mais également de l'intégralité de la branche, donc du privé. Alors effectivement, aujourd'hui, une mobilisation forte, mais bon, sans surprise pour nous. On a affiché le 22 mars comme un moment de mobilisation qui était à coup de semonce. Entre le 22 mars et le 3 avril, ben voilà, on attend, on laisse venir, comme si un mouvement de grève était vraiment quelque chose d'irrémédiable et pas d'autre solution.
Vous allez tenir pendant jusqu'au 28 juin ?
Pas d'autre levier. Alors aujourd'hui, la position du ministère se durcit. Là aussi, également, j'ai également entendu Madame Borne.
Oui, justement, position. On va l'écouter, Madame Borne, comme ça après vous pourrez réagir sur sa position. Elle affirme que le gouvernement tiendra bon. C'était ce matin sur BFM TV.
Certains veulent très clairement politiser le débat. Quand on annonce des contre-vérités, quand on vous dit la SNCF va être privatisée, c'est faux. Quand on vous parle de casse du service public, c'est faux. Quand on veut faire l'amalgame avec d'autres conflits, on voit bien que certains essayent effectivement de politiser le débat. Je le dis clairement, c'est pas l'intérêt des cheminots. Cette réforme, il faut la mener. Elle est attendue depuis
des
années.
Vous l'amènerez jusqu'au bout.
Elle est indispensable.
Vous
elle
la
est...
conduirez jusqu'au bout.
Bien sûr.
Vous tiendrez
bien
bon.
Sûr, bien
Est-ce
sûr.
Que le gouvernement tiendra bon ?
Le gouvernement tiendra bon dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue.
Voilà, Elisabeth Borne donc avec Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que le gouvernement tiendra bon ? Réponse un peu sollicitée, mais malgré tout, elle le dit dans la concertation, dans le dialogue. Roger Dillenseguer, encore un petit mot là-dessus. Est-ce que maintenant, avec la force de ce premier jour, on va dire, vous espérez que les choses vont repartir du côté de la négociation ?
Nous sommes à l'UNSA ferroviaire très soucieux de la qualité du ferroviaire, de la qualité de la production ferroviaire. Aujourd'hui, on est dans une situation Madame Borne durcit le débat. Forcément, en l'occurrence, ça va avoir l'effet inverse. Les syndicats, les cheminots en grève vont également durcir le débat.
Où voyez-vous qu'elle le durcit ?
Ben, en disant qu'on politise la situation, qu'on est fermé au débat. Nous, au contraire, on demande des négociations. L'UNSA ferroviaire est un syndicat qui pratique la politique contractuelle. Je pourrais revenir sur 2014, où, avec le ministère des Transports à l'époque, on a signé des engagements réciproques qui aujourd'hui sont remis en cause. Donc, quelque part, on est vraiment sur un terrain où effectivement, cette approche de politisation ne nous va pas du tout.
Roger Dillenseguer, on vous retrouve dans la séquence interview, mais on reparle de cette notion de politisation, puisque le mot a été lâché par la ministre. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
La ministre dénonçait précisément ceux qui cherchent à politiser le débat, donc à qui faisait-elle allusion précisément ?
Alors, il faut voir que c'est une bataille de l'opinion qui se joue là. Et politiser le débat, ça veut dire l'élargir au-delà des revendications portées par les grévistes à la SNCF. Si on s'en tient au projet du gouvernement et à l'opposition qu'il suscite, on est sur la suppression du statut des cheminots, la réduction de la dette, l'adaptation de l'entreprise en vue de l'arrivée prochaine de la concurrence. Bref, des sujets certes importants, mais sur lesquels il sera difficile de mobiliser une majorité de l'opinion. Pour le dire autrement, si ce n'est que ça, les Français s'en fichent un peu. En revanche, si le débat se politise, si les contestataires réussissent à montrer que ce projet pour la SNCF est l'avant-garde d'un projet plus global de destruction de la société française, là c'est une autre affaire. Et on voit que c'est bien ça qui joue à travers les arguments employés par les grévistes. Privatisation, casse du service public. Il s'agit de montrer qu'Emmanuel Macron, à travers cette réforme et toutes les autres réformes actuelles et à venir, a un projet de libéralisation et de dérégulation de la société. Et que finalement, c'est ça le macronisme, de la destruction, du détricotage, une mise en coupe réglée de la société qui serait dès lors livrée aux appétits des acteurs les plus voraces de la mondialisation. Et le débat que prétendent rejouer là les acteurs de ce conflit, c'est en quelque sorte toujours ce même débat récurrent qui fait qu'on est une des sociétés les plus politisées au monde. Le débat entre liberté et égalité, avec un Macron qui est présenté comme un chantre d'une libéralisation tous azimuts, et en face, des grévistes qui seraient eux les défenseurs de l'égalité et à travers cette égalité de la cohésion du pays. Et vous vous souvenez peut-être de cet épisode pendant la campagne présidentielle où Emmanuel Macron se retrouvait au tableau devant des enfants.
La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ?
Liberté, égalité, fraternité.
Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top.
Top. Le but des grévistes était de montrer que Macron, ce n'est pas ça, qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Et on peut considérer qu'il y a aujourd'hui un doute dans l'esprit d'un certain nombre de Français. Doute qui s'exprime à travers cette accusation récurrente de président des riches. L'objectif des grévistes est de faire en sorte que ce doute devienne majoritaire, auquel cas il bloquerait toutes les ambitions réformatrices du président. Alors, est-ce qu'on en est là, moins d'un an après l'élection présidentielle ? Je vous pose la question, Antoine Mercier.
Voilà, on va la poser à notre invité, qui est l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Michel Agier, ethnologue, anthropologue. Merci Stéphane Robert. Invité donc de la dernière partie de la Grande Table, on va reparler de Calais, mais sur ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous avez quelle perception vous avez de la situation, convergence des luttes ou pas ?
Déjà, une perception très générale, on vient de l'entendre. Emmanuel Macron a une parole enchantée ou enchanteresse, c'est-à-dire que avec des mots, il a su rassurer des gens il y a un an qui avaient très peur de ce qui se passait dans le monde, qui avaient très peur de ce qu'on voyait arriver en France, et il a un style, il a une parole qui rassure. Et puis à l'usage, si on peut dire, on se rend compte que secteur par secteur, domaine par domaine, les gens découvrent qu'ils ont comme point de mire la précarisation. Et donc c'est en fait ce qui se passe, je crois, je suis pas du tout compétent pour parler de la SNCF, j'en suis consommateur et je suis très heureux que ça existe, mais
vous avez le sentiment que dans tous les secteurs, finalement, différents mouvements dont on va reparler tout à l'heure aussi, les revendications sont un peu similaires, les inquiétudes sont un peu similaires, et cependant, ça ne fait pas véritablement de, comme on dit, convergence ou de coagulation des luttes.
Il y a quelque chose que tout le monde découvre, mais ça c'est plus général, je pense, dans les pays européens et les pays riches, c'est que l'avenir peut être un avenir de régression. On a toujours cru à quelque chose qui était « on va vers le progrès, on va vers le progrès social, on va vers plus de bien-être ». Et là, maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se mettre dans la tête des gens, et notamment des gens qui sont des travailleurs salariés avec des droits, c'est qu'on commence à perdre des droits. Et ça, je pense que ça fait peur, ça inquiète. Et face à ça, effectivement, il y a une espèce de magie de la parole, parce que ça coûte rien de lancer des idées, de parler, voire de s'attaquer à des individus précaires. Et on parlera des questions de migration, mais les plus précaires parmi les précaires sont les migrants. Et donc, ça coûte rien aussi d'avoir des politiques répressives à leur égard. Mais moi, ce que je vois, c'est effectivement une tendance générale. Il y a un ouvrage à la fin de l'année 2017 qui est paru, qui s'appelait « L'âge de la régression ». Je crois qu'on entre doucement mais sûrement dans un âge de la régression.
Michel Agier, on vous retrouve dans la dernière partie de la Grande Table. Encore un mot sur les autres secteurs, puisqu'il y a aussi l'énergie qui entame une mobilisation, la CGT qui appelle à 3 mois de grève pour défendre secteur électrique et gazier, en plein débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le secrétaire général de la Fédération Mines Énergie CGT envisage des actions conjointes avec les cheminots. Air France prévoyait d'assurer aujourd'hui 75% de son programme de vol à l'occasion d'une nouvelle journée de grève à l'appel de l'intersyndicale. L'intersyndicale qui réclame une hausse des salaires de 6%. La faculté de droit de Montpellier qui rouvre ce matin sous tension et sous surveillance. Elle avait été fermée depuis les violents incidents qui ont notamment abouti à la mise en examen du doyen et d'un professeur. La Coordination nationale des étudiants en lutte a lancé un appel à participer à une manifestation nationale à Montpellier le 14 avril. Le mouvement touche notamment Jean Jaurès de Toulouse, le campus de la Victoire à Bordeaux, la faculté de lettres de Nancy, et puis ce site de Tolbiac à Paris, l'université Panthéon-Sorbonne. Les étudiants d'ailleurs viennent de voter en AG aussi la participation à la manifestation du samedi 14 avril, place de la République à Paris, contre, je cite, la politique antisociale de Macron. L'actualité à l'étranger à 12h45. Carles Puch demande qu'il pourrait prochainement être extradé vers l'Espagne. Le parquet allemand se dit favorable à l'extradition de l'ancien président catalan qui est détenu en Allemagne depuis maintenant le 25 mars. Le procureur général de l'État du Schleswig-Holstein reconnaît la validité en droit allemand des deux chefs d'inculpation de Madrid, à savoir rébellion et détournement de fonds. Nathalie Versieux.
Le procureur général du Schleswig-Holstein a estimé ce matin que les deux chefs d'accusation retenus par la justice espagnole à l'encontre de l'indépendantiste catalan, rébellion et détournement de fonds, étaient recevables en droit allemand. Certes, le délit de rébellion n'existe pas en République fédérale, mais le parquet a jugé qu'il se rapprochait de la haute trahison qui figure dans le droit pénal allemand et qu'une équivalence exacte n'était pas nécessaire. Rien ne s'oppose donc pour le procureur à la livraison de Carles Puigdemont à l'Espagne. La décision finale reviendra à un tribunal du nord du pays qui a encore 50 jours pour se prononcer pour ou contre l'extradition de Puigdemont. Au cours du week-end, l'indépendantiste catalan avait présenté un recours contre son inculpation pour rébellion en Espagne en soulignant l'absence de violence de sa part lors des manifestations qui ont accompagné sa vaine déclaration d'indépendance de la Catalogne en octobre dernier.
Une interview remarquée du prince héritier saoudien à la revue américaine The Atlantic, Mohamed Ben Salman, qui assure n'avoir aucune objection religieuse quant à l'existence de l'État d'Israël et qui assure même que les Israéliens ont le droit d'avoir leur propre État-nation comme les Palestiniens. Déclaration interprétée évidemment comme un nouveau signe de rapprochement avec Israël dans un contexte de montée des tensions avec l'Iran. Éric Bégala.
Oui Antoine, c'est une vraie première. La première fois qu'un quasi-chef d'État, Mohamed Ben Salman n'est que prince héritier, qu'un quasi-chef d'État d'un pays musulman arabe reconnaît explicitement le droit à l'existence d'Israël, ou pour reprendre les termes exacts de Mohamed Ben Salman, que les Palestiniens et les Israéliens ont droit à leur propre terre. Certains leaders arabes modérés ont déjà par le passé admis la réalité factuelle de l'existence d'Israël, mais aucun n'en a jamais admis publiquement la légitimité. Une déclaration qui intervient, c'est vrai, dans un contexte de rapprochement entre Riyad et Tel Aviv, rapprochement accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Le mois dernier, l'espace aérien saoudien était ainsi pour la première fois et au terme de 2 ans de négociations discrètes ouvertes aux avions desservant Israël. En novembre dernier, le ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinitz, confirmait qu'Israël entretenait quelques liens secrets avec plusieurs pays arabes et musulmans. Et quelques jours plus tôt, c'était le chef d'état-major des armées de Tsahal qui donnait une interview, là aussi grande première, à un média saoudien, interview dans laquelle il déclarait qu'Israël était prêt à échanger du renseignement militaire avec l'Arabie saoudite pour faire face à l'Iran. Téhéran est en effet l'ennemi déclaré, à la fois d'Israël et du royaume saoudien. D'ailleurs, dans son interview à The Atlantic, Mohamed Ben Salman explique en longueur que son pays doit faire face à ce qu'il appelle un triangle du mal, un triangle réunissant l'extrémisme djihadiste d'Al-Qaïda ou de l'État islamique d'un côté, l'activisme politique des frères musulmans de l'autre, mais dont le sommet principal est bel et bien constitué par le régime iranien. Un régime à propos duquel Mohamed Ben Salman n'hésite d'ailleurs pas à franchir allègrement le point Godwin, martelant qu'à côté de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, même Adolf Hitler aurait fait bonne impression. Ce dernier s'étant contenté d'envahir l'Europe quand le premier vise aujourd'hui la conquête mondiale sur le prince héritier. Aujourd'hui, poursuit-il, Khamenei est le Hitler du Moyen-Orient et nous ne voulons pas que ce qui s'est passé en Europe se répète au Moyen-Orient. Une comparaison déjà faite publiquement en novembre dernier par le prince et en des termes qui ne sont pas bien loin de ce que l'on peut aussi entendre à Tel Aviv ou à Jérusalem à propos de l'Iran, notamment du côté le plus à droite du spectre politique israélien.
Merci beaucoup. Éric Bégala, et justement à propos d'Israël, le Premier ministre suspend un accord avec l'ONU et les Nations Unies qui prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains qui sont actuellement en Israël, notamment près de Tel Aviv, annoncé avant-hier avant d'être suspendu quelques heures plus tard. Il prévoyait cet accord, la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais et Érythréens qui vivent en Israël dans les pays occidentaux et en échange de quoi l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent, donc 16 000 qui devaient rester sur le territoire. C'est cet accord donc qui a été suspendu, Étienne Monin.
Cette affaire illustre à la fois la fragilité politique du Premier ministre et la ligne radicale tenue par la droite en Israël sur le sujet des migrants. La solution annoncée hier avec l'ONU était pour Benjamin Netanyahou une sortie par le haut après des mois de tensions dans le pays autour de la gestion des demandeurs d'asile. Il y a un peu moins de 40 000 migrants en Israël. Ils sont érythréens et soudanais, installés pour partie dans les quartiers défavorisés de Tel Aviv, rejetés par une part très active de la population israélienne. Le gouvernement a tenté dans un premier temps temps de les renvoyer sous la contrainte dans des pays tiers comme le Rwanda. Puis il a annoncé hier, à la surprise générale par la voix du Premier ministre, une solution négociée qui offrirait plus de garanties. Mais cet accord prévoit d'accorder un statut provisoire en Israël pour plus de la moitié des demandeurs d'asile. Cette ouverture a été rejetée par l'aile droite de la coalition. Son leader y voit une reddition et le Premier ministre israélien ne peut pas se permettre une crise politique au moment où il est menacé par les affaires judiciaires.
1h10, retour vers notre invité, Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Monsieur Dillenseger, est-ce que vous diriez que le mouvement social en cours dans plusieurs secteurs, on en a parlé, peut faire émerger des thèmes communs qui permettraient éventuellement une coagulation des luttes en ce printemps 2018?
Oui, moi je dirais que le A de UNSA qui caractérise notre côté autonome vient à point nommé. Et en réalité, nous, on travaille vraiment pragmatiquement les sujets, indépendamment des approches. On essaie d'éviter la politisation globale. Je travaille, j'ai d'ailleurs eu un échange assez long ce matin avec mon secrétaire général Interpro, Luc Béril, qui m'affirme tout son soutien. Et il y a un travail également de cohérence entre toutes nos unions départementales UNSA interprofessionnelles. Et il est évident que l'accumulation de petits contentieux, Air France, les EHPAD, l'énergie, vous l'avez dit, mais également les éboueurs, à force de ne pas chercher de solutions réelles, tout ça, ça pourra se cristalliser et pourra bien donner de l'ampleur à un mouvement qui se développe.
Hakim Kasmi.
Alors, Roger Dillenseger, justement, vous voyez les différents mouvements sociaux en ce moment. Vous avez lancé un préavis de grève pendant 3 mois avec un système inédit, 2 jours de grève tous les 3 jours afin de pouvoir durer à long terme. Est-ce que vous pensez que pour faire face à une opinion publique qui pourrait finalement dire « écoutez-nous, on en a marre », entre guillemets, d'être bloqué, est-ce que tous ces mouvements pourraient vous aider sur la longueur pour créer une sorte de contestation généralisée?
Voilà, j'ai eu l'occasion de le rappeler. Notre vocation, UNSA ferroviaire, c'est pas de gêner les usagers ni les clients, ni de pratiquer de la gréviculture. Notre objectif à nous, c'est de trouver des solutions. Et si le seul levier est de se mettre en grève, c'est le dernier recours. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il est évident que si du côté ministère, du côté de l'État, il n'y a pas de réponse en attente qui peut une réponse équilibrée, en fin de compte, la contestation pourrait nous servir pour effectivement avancer sur ce dossier-là et en fin de compte aller dans un bras de fer encore plus musclé qui, à un moment donné, obligera le ministère à nous répondre.
Oui, mais le gouvernement, lui, fait de la politique et si vous vous y opposez à cette politique, vous en faites aussi malgré vous, finalement, forcément.
Ah, c'est vrai. Dès le moment qu'on dit qu'on ne fait pas de politique, on est déjà en train d'en faire. Donc, effectivement, on est dans ce jeu-là. Mais encore une fois, notre vision à nous, UNSA ferroviaire, c'est un vrai ferroviaire, du bon ferroviaire, qui répond aux attentes des usagers, et là, indépendamment des entreprises qui le pratiquent.
Hakim Kasmi.
Alors concrètement, pour revenir au fond du dossier, vous contestez principalement la fin du statut pour les nouveaux entrants à l'SNCF, ainsi que la transformation de l'SNCF qui ne serait plus en 3 EPIC, mais en société anonyme à capitaux publics. Concrètement, quelles conséquences cela aurait-il pour l'ensemble des usagers?
Deux sujets, alors qu'il faut complètement distinguer. La fin du statut, c'est la fin des conditions sociales de la SNCF, des salariés de la SNCF, qui en l'occurrence, j'ai entendu dire tout à l'heure que c'est un droit. C'est pas un droit, c'est pas des acquis sociaux. C'est une compensation légitime à des contraintes d'exploitation du système ferroviaire.
Enfin, tout le monde peut dire ça dans tous les secteurs. Beaucoup de secteurs.
Bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que nous, on se bagarre, parce que les contraintes des cheminots de la SNCF sont les mêmes que les contraintes des cheminots du privé. Il faut construire un cadre social, une convention collective qui réponde à ces contraintes. Aujourd'hui, on annonce, avant même de finaliser la convention collective, qu'on supprime le statut. Il faut réagencer le calendrier et retravailler dans le bon sens. Mettons-nous au boulot pour construire une réelle convention collective pour tous les salariés du secteur et après interrogeons-nous sur le statut. D'ailleurs, si je peux me permettre, à date, aucune étude d'impact sur ni économique ni organisationnel par rapport au statut a été faite pour mesurer les conséquences sur la production ferroviaire. Faisons cette étude d'impact et on en reparle.
Alors effectivement, on sait, il y a des calculs qui ont été faits, notamment lorsque l'on parle des billets gratuits, ça représente même pas 50 millions d'euros par an, on le sait. Il y a 46 milliards de dettes aujourd'hui à la SNCF. Cette dette, elle vient aussi en partie de l'État et de la politique de l'État qui, pendant des années, a demandé de faire des lignes TGV sous la pression des élus, a fait des commandes, notamment chez Alstom, pour maintenir l'emploi public. Vous estimez que là aussi, l'État, ça part de responsabilité, même s'ils ne veulent pas le dire aujourd'hui ?
Soyons clairs, la dette de SNCF Réseau, la dette du système ferroviaire, est une bonne dette. S'il n'y avait pas eu ces investissements dans le ferroviaire durant des années, après on peut évoquer la répartition des investissements, c'est clair. Mais aujourd'hui, la dette du ferroviaire, c'est également un réseau TGV de bonne qualité. Là où se pose la vraie question, c'est que quand on parle de statut même de la SNCF, pas des cheminots, de la gouvernance de la SNCF, si SNCF Réseau perd son statut d'EPIC, il perd également la garantie de l'État sur les emprunts. Et tous les efforts qu'on va faire sur la productivité, sur le social, vont être engloutis par des frais supplémentaires sur les emprunts.
Alors, qui doit payer la bonne dette ?
À la bonne dette, chacun paye sa dette. Mmh. Et l'État doit prendre en responsabilité la part qui lui revient.
Vous êtes prêt pour 3 mois de combat ?
Moi, je suis prêt pour travailler et négocier le plus rapidement possible pour limiter la durée de la grève. Mais pour trouver les bonnes solutions.
Roger Dillenseger, merci beaucoup, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, d'être venu dans ce studio. Un temps variable, des ondées, des orages sur la moitié ouest et sur le nord, du vent sur le sud-est, des températures de 13 à 21 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.